podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Marlier.
On a déjà tout dit sur X-Files ou presque. La série fantastique de la Fox est arrivée sur les petits écrans américains en 1993. Nul ne lui prédisait ce succès phénoménal, surtout quand on sait qu'il s'agissait au départ d'une production dite à petit budget. Au final, 9 saisons, pas toujours égales en qualité, mais qui resteront sans conteste dans les annales de la télévision et de la science-fiction. Chris Carter en est le créateur. Il a d'abord trempé sa plume dans l'actualité sportive. Avant de se tourner vers le petit écran, il travaillera pour Disney puis pour NBC, avant de migrer vers la Fox pour y développer de nouvelles séries. Son premier coup est gagnant, c'est évidemment X-Files. Pour ce projet, Carter se souvient de son enfance, de la terreur et du plaisir que lui procuraient les enquêtes de Karl Kolchak dans la série The Night Stalker. Le pilote, une histoire de meurtre d'étudiants marqués dans le dos et qui pourrait bien cacher des méfaits extraterrestres, ne convainc pas les cadres de la chaîne. Mais les résultats lors des projections tests sont énormes. Le succès public ne délaissera pas X-Files durant 9 années, 9 saisons et un joli palmarès. Plusieurs guest stars dont Roy Thinnes, Lucille Oless ou encore Burt Reynolds. Un film, de crossover et un spin-off. On ne peut qu'affirmer qu'X-Files est un phénomène de société. Non seulement la série s'est insinuée dans l'univers ufologique, mais elle est entrée dans nos vies quotidiennes. Qui, aujourd'hui, ne croit pas, même un peu, à un complot gouvernemental, Sarah ?
En tout cas, moi je n'en sais rien, mais c'est de ça que j'avais envie de vous parler au départ. Alors peut-être 2-3 précisions pour ceux qui écoutent aujourd'hui l'émission, je ne vais pas revenir sur ce qu'est X-Files, parce que je pense que tout le monde sait ce que c'est.
C'est un peu inutile en tout cas.
Ouais, et en tout cas ce serait très long si je devais vous réexpliquer tout ce qui s'est passé pendant ces 9 saisons complètement alambiquées, je pense qu'on ne serait pas sorti de l'auberge. La conspiration, c'est justement ce qui rend les choses un peu compliquées, et c'est l'élément qui marque et à mon avis qui restera de cette série. On le sait dès le départ, puisqu'on voit dès le premier épisode que le fumeur cache un implant dans une espèce de salle d'archivage, et on sait que dès le deuxième épisode, Gorge Profonde dit à Mulder qu'il en sait trop et qu'il y a des gens qui ne veulent pas que la vérité éclate. Ces gens, c'est qui ? Ces gens, ce sont des autorités du bureau fédéral d'investigation, le FBI, donc ce sont aussi des autorités du pays, voire du monde entier, puisqu'on apprend que l'ONU est un peu trempée là-dedans aussi. Tous ces gens connaissent l'existence des extraterrestres, se sont arrangés avec eux pour avoir retiré un peu leur bille du jeu quand ils vont coloniser la planète, mais évidemment ils se sont arrangés pour effacer toutes les preuves. Le problème, c'est que Mulder voudrait prouver que sa sœur a bien été enlevée par des extraterrestres et donc doit mettre au jour cette conspiration pour pouvoir avoir l'air un peu crédible. Toute cette conspiration dont X-Files tourne autour de personnages emblématiques comme par exemple le fumeur ou comme Alex Krycek, je ne vais pas revenir là-dessus parce que soit les fans les connaissent très bien, soit vous n'êtes pas fan et de toute façon ça ne vous dit rien du tout, donc voilà. Simplement savoir que c'est aussi autour de cette conspiration que tournent les personnages les plus importants au niveau par exemple des victimes. On a Cassandra qui est l'hybride parfait par exemple, ou Gibson, le jeune garçon qui sait lire dans les pensées, qui semble lui être aussi être un chaînon manquant entre les êtres humains et les extraterrestres. Les personnages eux-mêmes principaux sont des victimes de cette conspiration puisque la sœur de Mulder s'est fait enlever et que Scully elle-même se fait enlever et se fait prélever ses ovules, donc participe au programme d'hybridation. C'est un peu compliqué, j'arrête là. Les scénaristes, les premiers, il faut savoir, ont été surpris du succès que rencontraient les épisodes de la conspiration. Et donc, au fil des épisodes, la mythologie s'est étoffée jusqu'au point de devenir même carrément très confuse et que ça a été un problème, en tout cas des fans et des téléspectateurs nouveaux qui comprenaient rien du tout, évidemment. Et donc, on a sommé Chris Carter de répondre aux questions petit à petit, ce qui arrive dans la dernière partie de la série. Malheureusement, la manière de répondre aux questions, c'est de relancer une nouvelle conspiration qui s'étalera sur les saisons 7, 8 et 9 et qui, elle, n'a peut-être pas le temps réellement de se mettre en place et qui paraît touffue. On lance à la fois l'idée qu'il y aurait une autre race d'extraterrestres ou des rebelles au sein de la première qui essayent de mettre à mal les négociations avec le consortium. Mais on lance aussi l'idée que peut-être l'origine humaine serait extraterrestre et que peut-être ceci peut expliquer certaines choses. On n'aura jamais les clés de tout ça. Autant le savoir dès le début.
Parole, Mulder. J'ai pris mon petit déj avec le gars qui a tiré sur JF Kennedy.
Incroyable.
C'est un vieux crouton maintenant. Il dit que ce jour-là, il était habillé en flic et chargé de la sécurité.
Écoutez-moi, Mulder. Vladimir Jirinovski, le leader russe social-démocrate, a grimpé les marches du pouvoir grâce à la plus odieuse et à la plus diabolique des forces de notre siècle.
Barney ?
La CIA.
Mm-hmm.
C'est elle, votre collaboratrice sceptique ?
Elle est canon.
Ainsi, vous ne croyez pas que la CIA, menacée de perdre une partie de ses pouvoirs et de ses crédits depuis la fin de la guerre froide, peut rêver au retour de son vieil ennemi ?
Je crois que le gouvernement n'est pas aussi retors ni aussi puissant. Je doute fort qu'il puisse à lui seul contrôler un déficit et organiser un crime. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il pourrait élaborer et exécuter ce genre de conspiration machiavélique ?
Et les canons.
Du calme, Freud.
On n'est pas en train de parler d'un groupe de débiles qui veut déchirer furieusement le Capitole. On est en train de parler d'un réseau de l'ombre, un gouvernement dans le gouvernement qui contrôle tous nos mouvements.
Et de quelle façon ?
Un jeu d'enfant. Vous avez un billet de 20 ?
Attends. Je vais voir.
Voilà. Allez, ciao. Bientôt.
Une méthode parmi d'autres. Ils utilisent ce ruban magnétique pour vous suivre à la trace. Quand vous traversez un détecteur de métal à l'aéroport, ils savent exactement combien vous transportez et où vous l'emportez.
Eh ben hier, c'est un crime fédéral de déchirer la monnaie des États-Unis.
Ce ruban est destiné à contrecarrer les faux monnayeurs.
Pourquoi est-il à l'intérieur ? Les autres pays mettent ce ruban à l'extérieur.
Ok. Qu'est-ce que vous savez du syndrome de la guerre du Golfe ?
Agent orange des années 90.
Blindage de l'artillerie lourde renforcée à l'uranium.
Avez-vous entendu dire que certains avions militaires secrets auraient volé pendant la guerre du Golfe ?
Pourquoi est-ce qu'un avion secret aurait été exposé dans une guerre où toutes les forces aériennes fuyaient vers l'Iran ?
Que pensez-vous de l'activité des ovnis au cours de cette période ?
Les ovnis à l'origine du syndrome du Golfe, c'est bonne celle-là.
C'est pour ça qu'on vous aime, Mulder. Vos idées sont encore plus farfelues que les nôtres.
Il faut savoir aussi que cette idée de complot gouvernemental est une idée qui vient de Chris Carter lui-même. Il a dit, en tout cas aux Générations Séries, dans une interview, que lui-même croit qu'il existe des complots gouvernementaux, que l'administration et la bureaucratie sont égoïstes et se foutent complètement de l'intérêt des peuples, et que donc c'est réellement sa vision des choses qui est retranscrite dans X-Files. Alors je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, je n'ai pas du tout envie de rentrer dans ce débat-là. Simplement, je remarque que récemment, ça devient un thème très important au sein de la fiction. Pensez par exemple à Complot mortel, le film, ou Sing, ou des séries comme 24 heures chrono, tout simplement, ou certains livres de science-fiction comme ceux de Philip Kindred Dick. Tout ça tourne autour de cette idée de conspiration.
C'est sûr qu'après X-Files, il y a eu une vague de fiction et notamment de séries télévisées qui ont repris ce thème principal. On pense notamment à Force Wave, tu as cité 24 heures chrono aussi. C'est clair qu'il y a eu une vague à ce niveau-là.
Il y en a même dans la réalité, puisqu'il y a des vagues de complots gouvernementaux qui ont été inventés autour du 11 septembre. Et donc maintenant, le complot gouvernemental fait vraiment partie de notre culture. Une chercheuse, Fabienne Soldini, a exploré un peu la littérature de terreur, dans le fantastique principalement, et elle démontre que dans cette littérature, et ça marche évidemment pour les séries télé comme celles qu'on étudie aujourd'hui, X-Files, elle démontre que ce sont des littératures de divertissement, mais qui prennent aussi, qui parlent des problèmes de la société. C'est une manière de s'en décharger, si vous voulez. Et ça marche très bien dans une société actuelle où il y a une crise vis-à-vis de la société qu'on voit comme déstructurée, désorganisée, des gouvernements qui parviennent pas à répondre aux problèmes des populations, etc. Et ces récits sont de terreur ou de science-fiction, sont une manière d'exprimer les peurs et d'y trouver certainement des réponses de substitution d'une certaine manière, tout à savoir que le lecteur lui aussi injecte ses propres peurs là-devant. Donc si Chris Carter a cette peur du complot gouvernemental, elle rencontre aussi la peur du complot gouvernemental des téléspectateurs, c'est pour ça que ça marche si bien. Et la boucle est bouclée. Il faut savoir aussi que ça devient problématique simplement à un moment où le monde de la fiction et le monde réel se superposent tellement bien que X-Files permet probablement de se dire « Ouais, c'est sûrement un documentaire. » Or, X-Files n'est pas un documentaire. Il faut peut-être garder ça en lumière. Je pense qu'avec la critique des médias, Chris Carter nous dit aussi que peut-être parfois, il faut remettre les choses dans leur contexte.
Et on le voit justement avec les derniers conflits qui se sont déroulés ces dernières années. C'est vrai que les crises et les guerres sont actuellement surmédiatisées.
Surmédiatisées, et donc tous les complots qui peuvent exister là autour, toutes les conspirations sont elles aussi surmédiatisées. Plus il y a de médias et de moyens de communication, plus il y a de théories du complot, et en tout cas, plus ça circule vite. Et c'est pour ça que ça me semblait intéressant de parler des médias dans X-Files, parce que c'est vrai que c'est pas le propos principal, ils ont déjà assez à faire avec leur conspiration, les hommes verts et la relation Mulder-Scully, on est bien d'accord. Mais de temps en temps, dans certains épisodes qui me paraissent en plus assez bien foutus, on a des choses sur les médias que je trouve assez intéressantes. Parfois, c'est une critique, puisque par exemple, on a un épisode dans la cinquième saison qui débute sur le Jerry Springer Show. On a une dame qui a mis au monde un enfant loup qui est interviewé. Alors pendant tout l'épisode qui se passe, c'est une enquête sur un meurtre qui aurait peut-être été perpétré par un monstre, justement, un monstre humain. Les gens n'ont que cette émission à la bouche. « Ah, tu as vu cette émission ? Oh, dis-moi aussi, j'aimerais bien avoir un enfant loup, ça me permettrait de gagner des sous en faisant des interviews, ce genre de choses. » Mais à partir du moment où le suspect numéro 1 devient le monstre du village qui a été caché par son papa, alors là, les gens oublient complètement que c'est super cool d'avoir un enfant loup. Et on assiste à une scène de lynchage populaire, si tu veux, un peu comme dans Elephant Man. Il y a un moment de l'épisode qui ressemble très fort au film de David Lynch. Et donc finalement, une espèce de critique. Les gens idolâtrent ce genre d'émission, ce genre de témoins qui vont à ce genre d'émission. D'un autre côté, quand ça arrive aux voisins, on oublie complètement que c'est cool et on a envie que de les critiquer. Donc déjà, une espèce de petite critique. C'est généralement bien amené parce que c'est pas évidemment le propos essentiel de l'épisode. Il y a aussi un épisode dans la dernière saison où un meurtre a lieu dans un milieu étudiant, adolescent, et en fait certains de ces adolescents envoient des séquences entre la cascade ratée et le scatologique, enfin, vous voyez ce que je veux dire, à une émission style Jackass. Et là, de nouveau, la critique, en tout cas l'enquête, n'a rien à voir avec cette émission. La critique ne se porte donc pas là-dessus, mais la manière dont sont filmés ces adolescents, les réactions qu'ils ont sur antenne et hors antenne sont tellement ridicules que on se dit qu'il ne peut y avoir qu'une critique là derrière. Alors parfois, on ne critique pas du tout, on utilise l'écriture journalistique pour écrire les épisodes. Et il y a deux épisodes emblématiques pour ça. C'est un premier dans la sixième saison où l'épisode commence avec une scène d'hélicoptère où on voit une poursuite d'une voiture de flic avec un fouillard. C'est devenu tout à fait habituel dans la télévision actuelle. Et en fait, Mulder va devoir entrer dans la voiture du gars et va participer à cette espèce de fuite en avant. Donc là, c'est une manière d'entrer dans la fiction où on utilise la façon que la télé a de nous raconter les choses en général pour rentrer dans l'épisode. Et il y a un épisode qui est encore plus hallucinant à ce niveau-là, au niveau de la saison 7, qui est extrêmement bien fait. Un peu comme dans Urgence, on avait eu un épisode en reportage, en direct. Ici, c'est Cops, vous voyez tous cette émission où on suit les flics, qui est d'ailleurs diffusée sur la Fox. On suit, avec une équipe de journalistes, constamment l'enquête de Mulder et Scully, qui se passe donc en un soir, évidemment. Alors au départ, ils suivent plutôt un policier en uniforme, qui se fait attaquer par un monstre, et Mulder et Scully arrivent, évidemment. Et alors, ce qui est succulent dans cet épisode, c'est que, d'abord, on a que ce que les gens connaissent, donc les interviews faites par les journalistes, et non plus les dialogues entre Mulder et Scully, par exemple, qui nous donnent les informations aux téléspectateurs. Mais ce qui est absolument hallucinant, c'est de voir que Scully fouille complètement la caméra, fait attention à tout ce qu'elle dit, répète constamment à Mulder, fais attention à ce que tu dis, ça va être diffusé en prime time, et Mulder s'en fout, évidemment, vous le connaissez. Donc lui, tenir une théorie complètement bracadabrante, caméra là ou caméra pas là, il le fait quand même. Donc ça, c'est assez succulent. Et là, on voit qu'en fait, la série utilise l'écriture journalistique pour écrire ses épisodes. Alors, il y a certains épisodes qui donnent plus une impression de mise en abîme de la série. Mise en abîme, ça veut dire qu'on parle de la série dans la série, quelque part, pour simplifier très fort. Le premier d'entre eux, c'est quand un producteur de films hollywoodien suit Mulder et Scully dans une enquête, sur des zombies d'ailleurs, et en tire un film. Déjà, c'est succulent parce qu'en fait, c'est la femme de David Duchovny qui joue le rôle de Dana Scully, ce que certains ont vu comme un signe qu'ils étaient bien amoureux, soit dit en passant. Mulder et Scully, je veux dire, hein, on ne sait rien à propos du couple de David Duchovny. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, évidemment, Mulder et Scully ne se retrouvent pas tout à fait dans l'adaptation du film, puisqu'on voit dans l'épisode à la fois ce qui se passe dans l'épisode, en parallèle, on voit ce que c'est devenu dans le film.
C'est plus romancé, je suppose qu'il doit avoir une histoire d'amour sous-jacente.
C'est plus romancé, c'est aussi plus à la louche, si tu veux, c'est Hollywood, donc c'est un peu plus bête, etc. Et il y a une déclaration qui se passe pendant ce temps-là, pendant ce film, et ça pose aussi, tu vois, la question d'adaptation, finalement. X-Files elle-même s'est d'abord revendiquée comme exposant des faits réels, donc a dû adapter des faits réels. Et c'est pas sûr que les gens qui travaillent réellement au FBI se retrouvent tout à fait dans Mulder et Scully. Donc il y a une espèce de question sur la manière dont X-Files elle-même raconte ses histoires que je trouve assez intéressante. Et dans le même genre, un autre épisode aborde une enquête où Anthony, un jeune garçon qui avait des pouvoirs de déplacer des objets, s'est retrouvé très seul et s'est recréé un univers imaginaire qui reprend l'univers d'une sitcom américaine qu'on ne connaît pas nous, enfin bon, c'est la Brady Bunch House. Et il a de tels pouvoirs qu'en fait sa maison est transformée à l'intérieur dans la maison de la sitcom. Évidemment, à la fin de l'épisode, on se rend compte qu'en fait c'est parce qu'il est malheureux et donc une personne lui conseille de délaisser la télévision pour vivre réellement sa vie. Évidemment, c'est intéressant parce que ça dit quelque chose sur la télé déjà. Et ça dit quelque chose sur les fans d'X-Files, arrêter de regarder la télé. Et c'est surtout intéressant parce que c'est l'épisode juste avant le dernier épisode. Donc juste avant de clôturer sa conspiration, etc., Chris Carter s'est dit, si on faisait quelque chose qui dit aux fans, maintenant il est temps de vivre votre vie. Je trouve ça super intéressant en fait. Et c'est pour ça que je disais à la fin de la conspiration, attention, peut-être que quelque part, Chris Carter, de cette manière, nous dit « Faites attention aux séries télé, à ses contenus et donc aussi à ses conspirations. » Même s'il y croit, peut-être qu'il faut quand même mettre tout ça avec des guillemets.
La question que tout le monde se pose à propos d'X-Files. Alors, Mulder et Scully, est-ce qu'ils sont ensemble ?
T'as pas vu la dernière saison pour dire ça, toi ?
Pas encore.
Ah ! Va falloir que je fasse attention à ce que je dis. Évidemment, c'est une question. De toute façon, c'est une question qui est derrière toutes les séries télé à partir du moment où il y a un homme et une femme. Rick Hunter finit par sortir avec Didi Bacall, même qu'il épouse, je crois, même un moment. Les deux font la paire. Claire de Lune, je peux en citer des milliards. Même Stargate et Géant, on sent qu'il y a un petit quelque chose entre...
Carter et O'Neill.
Par exemple. Et apparemment, ça fait vendre. Donc, c'est super, parce que tous les téléspectateurs allument leur téléviseur toutes les semaines pour voir si, enfin, ils sortent ensemble. Le problème, c'est que quand ils sortent ensemble, généralement, la série se casse la gueule. Et là, c'est là que les problèmes interviennent. Claire de Lune, par exemple, s'est complètement foirée dès que le couple a été consommé.
On l'avait vu aussi avec Nathanaël et son dossier sur Lois et Clark.
Par exemple, ouais. Alors, un des phénomènes les plus intéressants, justement, par rapport à X-Files, c'est de voir comment, pendant des années, ils ont réussi à différer le moment où Mulder et Scully sortent ensemble, tout en quand même donnant des indices, sinon ça n'est pas intéressant du tout. Il faut savoir qu'au départ, c'est le calme plat, rien ne se passe. Saison 1 et 2, ils apprennent à se connaître. Bon, déjà, c'est pas tout à fait clair dès le départ qu'ils vont tomber amoureux. Elle est quand même sceptique au départ, et lui n'est pas du tout sceptique. Et en plus, elle est censée l'espionner, donc au départ, ça commence mal. Hein.
En même temps, il y avait quand même... petite attirance dès le départ. Je suis désolé, mais dans le premier épisode, elle arrive et elle lui montre son dos et ses fesses pour lui montrer une morsure qu'elle croit d'être d'un extraterrestre. Moi, je suis désolé, je connais quelqu'un depuis 3 jours, je vais pas lui montrer mes fesses. Hein.
C'est vrai qu'il y a des petites allusions, mais elles sont soft. Il y a par exemple aussi une allusion quand ils font une planque et que Scully dit exactement ce qu'il veut entendre et donc il lui répond « Si jamais que tu m'as amené avec mon sandwich un iced tea, c'est vraiment l'amour. » Bon, c'était pas de l'iced tea, c'était de la bière. Donc il y a quand même des allusions, mais par rapport à ce qui vient ensuite, c'est rien du tout. À partir de la saison 3, on passe à un cran supérieur. Alors là, c'est peut-être parce que Mulder a été malade et qu'ils ont apparemment communiqué de manière télépathique, je sais pas très bien, mais en tout cas, à partir de ce moment-là, quand Dana voit des filles tourner autour de Mulder, elle est plutôt jalouse. C'est le cas du shérif Angela White, par exemple. Mais on voit aussi un Mulder très très affecté pendant les épisodes où on voit Dana lutter contre le cancer ou faire des rechutes. C'est d'ailleurs un des premiers épisodes dans la 5e saison, au début, où il pleure quasiment constamment du début de l'épisode à la fin. Ce qui est pour Mulder quelque chose d'assez inhabituel, vu que généralement, Mulder a justement ce côté un peu
ce masque
rigide,
fermé,
voilà. Ouais. En substance, il se passe rien non plus, sauf que Diane Foley donc revient mettre un peu son nez là-dedans, mais il se passe rien non plus. Les allusions sont un peu plus directes. On pourrait dire que c'est des broutilles, mais justement, à la fin de la 5e saison, Dana Scully, dans un documentaire, dit que des gestes comme se tenir la main dans X-Files, c'est aussi fort que de faire l'amour dans certaines autres séries. Donc, c'est bien la preuve que ce ne sont pas des broutilles.
On n'oubliera pas non plus le premier baiser qui est survenu dans le film.
Alors, premier presque baiser dans le film. Évidemment, le film, c'est un moment stratégique. D'abord pour la conspiration, mais aussi pour le couple. Et je pense que beaucoup de fans s'attendaient à les voir s'embrasser. Donc, ils sont à deux droits de s'embrasser au début. Mais une abeille vient mettre un peu le bordel. Alors, on se dit que ça va être un happy end et qu'ils vont sortir ensemble à la fin du film. Et ça ne se fait pas non plus.
Oui ? Qu'est-ce qui se passe ?
Tu es seule ?
Ma mère vient à peine.
Rassemble vite quelques affaires, on s'en va loin d'ici.
Mais enfin, pour aller où ? Non, arrête, je t'en prie. Je veux que tu me dises ce qui se passe. Il y a un problème avec mon bébé ?
Non, ton bébé va bien. C'est toi qui es menacée, Scully.
Par qui ? Par quoi ? Dis-moi !
Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je dois te sortir.
Écoute, je ne supporte plus de vivre dans un tel stress. C'est comme si j'étais devenue l'objet d'une espèce d'éternelle affaire non classée.
Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une affaire non classée, Scully, mais de toi. Tu vas bientôt mettre un enfant au monde. Et je ferai tout ce que je peux pour le protéger. Si on reste ici, je ne pourrai rien.
Ce qui est encore plus frustrant, c'est que quand on revient dans la série, il se passe rien non plus dans la saison 6. Mais là, ils sont obligés quand même de passer un cran parce que, bon, ça a failli se faire dans le film, on peut pas repartir à zéro complètement. Et alors se mettent en place des procédures de substitution assez intéressantes, des procédures similaires à ce qu'on avait vu d'ailleurs dans Claire de Lune, à savoir que, par exemple, on a un premier baiser qui se passe dans un épisode, mais malheureusement, ils sont dans des mondes parallèles et la personne que Mulder embrasse, ça n'est pas vraiment Dana Scully, même si c'est en fait Dana Scully. Enfin,
on
compliqué.
A déjà eu le plan dans Stargate aussi.
Voilà. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et il y a aussi un épisode de Noël qui passe dans une maison hantée avec deux fantômes fantômes qui les placent face à leurs sentiments et qui les font avouer leurs sentiments. Mais le problème, c'est que l'autre n'est jamais là à ce moment-là. Et donc, on a des choses comme ça qui se passent jusqu'au moment où on peut plus retarder le truc. Et alors, l'épisode où ils s'embrassent pour du vrai, c'est l'épisode crossover avec Millennium, et donc ils s'embrassent aux 12 coups de minuit de l'an 2000, si c'est pas romantique. Et d'ailleurs, Mulder déclare « Le monde ne s'est pas arrêté ». Et lui répond ben non. Et ça, c'est à la fois une allusion au bug de l'an 2000, mais à la fois aussi une allusion au fait que, ben oui, Mulder et Scully peuvent s'embrasser, la série ne s'écroule pas. Le monde ne s'écroule pas quand ils s'embrassent. C'est peut-être aussi une demande implicite aux téléspectateurs. Non, continue à nous regarder malgré tout. Ceci dit, ils prennent pas beaucoup de risques parce qu'en fait, il se passe pas grand-chose non plus durant cette saison. On suggère qu'ils couchent ensemble une nuit dans un épisode vers la fin de la saison, mais sans plus, on voit rien se passer, etc. Après, Mulder est enlevé, donc et là, on voit Scully... Bon, ils sont censés maintenant sortir ensemble. Mulder est enlevé, et on voit Scully, effectivement, assez mélancolique. Elle se comporte presque comme la veuve de Mulder quand on retrouve son corps. Je ne vais pas expliquer plus pour ceux qui n'ont pas vu. Mais leur relation est officialisée une seconde fois, à la fin de la 8e saison, quand William naît, l'enfant donc de Mulder et Scully. On le saura plus tard. De nouveau, prennent pas beaucoup de risques, puisque Mulder disparaît de la circulation. Donc, en gros, on revient à la situation zéro. Sauf que là, Scully se comporte comme une amoureuse, vu qu'elle lui envoie des emails, elle essaye de le rencontrer, etc. Mais ça marche pas. Pas très bien, en tout cas. Maintenant, il est évident pour tout le monde qu'ils sont amants. En tout cas, dans l'épisode de clôture, on les voit s'embrasser devant Skinner, etc. En fait, ce qui est vraiment hallucinant dans cette série, c'est que les scénaristes parviennent non pas à garder l'attention du téléspectateur, mais à différer complètement tout le temps les épisodes. Dès qu'ils sortent ensemble, il y en a un qui disparaît. Donc c'est un peu facile, mais c'est assez intéressant aussi. Ce qui fait que finalement, l'épisode où on les voit réellement ensemble, c'est le dernier. C'est pas compliqué. Et puisqu'on parle du dernier épisode, c'est assez intéressant d'abord de voir qui conclut sur ce couple, puisque ce sont les dernières secondes, voire peut-être même les dernières minutes. J'en dirai pas plus, puisque tu n'as pas vu la 9e saison. Mais on reprend enfin un parallèle avec le premier épisode de la série, sauf que cette fois-ci, c'est évident qu'ils sortent ensemble, et c'est évident que Scully est la personne qui permet à Mulder de reprendre courage, de reprendre foi, etc. Donc, ils forment vraiment un couple à partir de ce moment-là. Et ce dernier épisode, j'avais envie d'en parler aussi parce que beaucoup de personnes ont été déçues de cet épisode qui résout pas grand-chose, finalement. On nous annonçait la vérité, on nous parle pas de la vérité, on sait pas ce qui s'est passé, on sait pas s'il y a une conspiration, etc., etc. Moi, ça me semble un peu normal, finalement, puisque Mulder et Scully font partie de ce genre de la quête. Ici, c'est la quête de la vérité. Et que dans ce genre de série-là, on n'a jamais la vérité et que c'est impossible. Et d'ailleurs, cette fin de saison semble insister sur le fait que Mulder et Scully ne peuvent pas être heureux et ne peuvent pas s'arrêter, ne peuvent pas trouver la vérité.
Mais est-ce que justement la seule quête véritable dans X-Files, ce n'est pas justement la quête du couple Mulder et Scully ?
C'est la quête du couple, mais la quête d'un couple qui est en recherche de la vérité. Donc si on nous conclut le couple, on ne nous conclut pas la recherche de la vérité. Et en tout cas, c'est un couple malheureux qui doit abandonner son enfant, par exemple, pour pouvoir continuer.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.